invité. Et quel invité ? Jacques Chambon, à l'affiche des Sentinelles à la Comédie Odéon, c'est jusqu'au samedi 4 novembre, tous les soirs à 21h30, sauf les lundis et dimanches. L'invité est donc avec nous pour en parler pendant toute cette émission, comme d'habitude. Première partie, un portrait. Et deuxième partie, plus précisément, ces Sentinelles, un texte assez, une pièce, un spectacle assez déconcertant, drôle, grave, terrible, triste, époustouflant, stupéfiant, bouleversant, enfin bref, tout un tas de choses. Je remercie l'équipe précédente du Petit A dans le Mou, Milouz et Combor, merci les gars. Voilà, émission en décalé aujourd'hui, c'est pas très grave. Générique en décalé également, nous n'avons pas Cora, nous retrouvons un peu Massive Attack, ce n'est pas très grave non plus. L'émission dure jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, disons. Aujourd'hui, comme ce jeudi, jusqu'à 15h, vous nous écoutez sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM, ou bien vous le faites sur internet, radiocanu.org. Nous commençons avec une première piste. Nous ne savons même pas ce que c'est. L'invité nous présentera ce titre et puis voilà, vous êtes avec nous jusqu'à 15h et c'est une très bonne chose. Et voilà, on l'aura entendu jusqu'à la fin, ce morceau. Bonjour, Jacques Chambon.
Bonjour, Christophe.
Eh bien, peut-être une première question. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, exactement?
On vient d'écouter Dominique Palandry, qui est un Lyonnais, un comédien et surtout un ami, qui est musicien avant d'être comédien. Et comme il le dit, le théâtre, c'est son métier, la musique, c'est sa passion. Et voilà, et c'est un morceau que j'aime bien, d'autant mieux qu'on avait tourné ensemble le clip de ce morceau. Et c'est un très, très bon souvenir. Voilà, et puis c'est un petit hommage, un petit salut amical à mon copain Dominique Palandry. Voilà.
Bon, excellente chose. Alors, vous êtes présent déjà pour une précision que nous pourrions à nouveau, que je pourrais redonner. La Comédie Odéon se trouve à l'emplacement de ce CNP Odéon, naguère.
Historique.
Jadis, moi j'y ai vu le film 2046 qui est à présent. Non, il n'y a plus de film projeté sur ce lieu. Rue Grolet, c'est ça ?
Rue Grolet, 6 rue Grolet, exactement. Ouais, ouais.
Et donc c'est pour les Sentinelles, vous êtes en deuxième semaine jusqu'au
4 novembre, ouais, c'est
samedi
ça.
4, 21h30, donc
21h30 du mardi au samedi, voilà.
Deuxième partie de soirée. Ouais. Avant cela, nous nous sommes indiqués cela hors antenne, c'est également le cahier des charges de l'émission. L'invité qui vient derrière un micro doit tout d'abord décliner son identité, il doit se présenter, il doit dire qui il est, tout ça, enfin bref. La question est très vaste et très libre, hein. Vous l'évoquez comme vous souhaitez, un peu d'histoire, un peu de géographie, enfin des dates ou pas de dates, mais il faut quand même indiquer, enfin il faut quand même que vous disiez un petit peu, les Sentinelles, vous en parlez dans un deuxième temps, c'est dans un premier temps, Jacques Chambon, donc, qui êtes-vous donc? D'ailleurs, pourrez-vous jamais répondre à cette question? Est-ce que ça pourrait être possible? Je vous en prie.
Je ne sais pas si qui que ce soit peut répondre à ce genre de questions, mais donc je m'appelle Jacques Chambon, j'ai 55 ans, je suis né en Bretagne il y a donc très longtemps, mais j'ai été lyonnais tout de suite, puisqu'à 15 jours je vivais déjà à Lyon et que les familles de mes parents étaient plutôt lyonnaises et ardéchoises. Que dire d'autre? Ben, je suis comédien, je suis auteur, j'écris des pièces. J'ai deux enfants, deux grands-enfants, et je vis à Lyon quasiment toute l'année, sauf quand je me déplace pour mon métier. Voilà, et puis il se trouve que je continue à travailler à Lyon parce que je m'y sens bien et parce que j'ai développé, je dirais, un réseau d'amitié, de complicité professionnelle qui font que je peux travailler, vivre de mon travail en restant à Lyon, ce qui me convient parfaitement. Voilà, et puis...
Ah, alors pour le coup, non. Non, là tout de suite, je vous tiens, et d'ailleurs peut-être une question plus précise. L'émission, peut-être pourrions-nous donc l'indiquer aux auditeurs qui nous trouvent aujourd'hui jeudi. De toute façon, rassurez-vous auditeurs, quoi qu'il en soit, l'émission sera bien... Elle est enregistrée, donc elle sera disponible sur le site. Donc que ce soit un mercredi ou un jeudi, si vous êtes en réécoute, cela n'aura absolument aucune importance. Néanmoins, l'émission, pourquoi n'a-t-elle pas lieu le mercredi 25 octobre alors que c'est ce qui était annoncé dans un premier temps? C'est parce que voilà, vous êtes...
J'ai dû me rendre à la capitale, à Paris hier pour quelque chose de très sympa, mais qui donc a obligé à déplacer l'émission. J'y suis allé pour enregistrer une voix pour Alexandre Astier dans le cadre du prochain long-métrage animé autour du personnage d'Astérix, voilà, dont il est en train de mener le chantier, voilà.
Je crois bien qu'il y a déjà un titre, Astérix et le secret de la potion magique, pour le mois de, il est annoncé la sortie, mois de décembre 2018.
Sans doute, voilà, vous avez des informations que je n'avais pas, mais voilà, en tout cas, ça m'a obligé à partir à Paris un peu de façon impromptue parce que, voilà, je l'ai su la veille pour le lendemain. Mais voilà, mais bon, on a pu déplacer l'émission, je vous en remercie infiniment. Et voilà.
Et cela permet quand même d'évoquer autre chose, parce que bien entendu, certes, nous indiquons de cette manière pourquoi l'émission a été déplacée, mais c'est pas tant cela qui prime, c'est plutôt, vous parliez de réseau d'amitié. C'en est une belle, cette amitié avec Alexandre Astier, qui vous conduit en 2002-2003, je crois, au moyen-métrage, Dies Irae.
Oui, c'est ça.
Et puis ensuite, un peu plus tard, combien 5, 6 saisons sur,
6
sur
saisons.
M6.
Voilà, donc, exactement.
Pour, on ne l'a pas encore nommé. Pour
Kaamelott, oui, bien sûr. Voilà, Kaamelott dans lequel j'incarne le vieux Merlin. Voilà, oui, c'est une histoire d'amitié et de complicité, je dirais même de complémentarité professionnelle. On a Alexandre, je le connais depuis qu'il a 14 ans. Ensuite, on s'est retrouvé à collaborer, à travailler sur son premier spectacle qui s'appelait Pulp Fiction, qui était une comédie complètement barrée, dans laquelle je jouais son beau-père. Ensuite, il a joué
à Lyon,
qu'on avait joué au Complexe du Rire. C'était en 2000, je crois, si je me souviens bien, dans ces eaux-là, 99-2000. Et puis ensuite, moi, j'avais commis un spectacle, je dis commis parce que je l'avais pas écrit, c'était un montage de texte autour de la guerre de 14-18 qui s'appelait Nous crions grâce.
Alors, plus grave peut-être.
Plus grave, beaucoup plus grave, très, très épuré, très sombre et très, très beau. Et c'est un spectacle qu'on a tourné plus d'une centaine de fois dans toute la France ensemble. On était tous les deux sur scène. Et du coup, ça nous a permis de nous découvrir humainement parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble.
Vous deux seuls, ou est-ce qu'il y avait déjà les Franck Pithiot, Jean-Christophe Humbert?
Non. Et on les connaissait. Enfin, moi, Franck Pithiot, je le connais depuis toujours, si j'ose dire, Jean-Christophe aussi. Mais là, c'était un spectacle que j'avais, où il y avait deux personnages, on était juste deux sur scène, et on tournait avec notre régisseur qui suivait la tournée avec nous. Et comme ça, on a fait des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres dans toute la France pour aller jouer en Bretagne, en Lorraine, dans les Vosges, dans le Sud-Ouest. Enfin voilà, donc ça a vraiment créé un lien assez fort entre nous, d'autant plus qu'on n'est pas vraiment de la même génération. Donc j'étais un peu le grand. On aurait pu parler de grand frère et de petit frère, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, on avait une complémentarité comme ça, qui se traduisait aussi scéniquement avec une espèce de rapport un petit peu Bourvil et De Funès, moi étant Bourvil et lui De Funès, enfin, toute proportion gardée évidemment, mais voilà, on a aussi sur scène, notamment dans tout ce qu'on a abordé en termes de comédie, une espèce de complémentarité rythmique qui faisait qu'on s'est toujours très bien entendu sur scène ensemble. Et que quand il a écrit les dialogues de Kaamelott qu'il a écrit pour Merlin, sachant qu'il les écrivait pour moi, c'est du texte qui est écrit à la virgule près pour mon phrasé, pour ma rythmique, pour ma couleur, etc. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure.
Des affinités peut-être aussi musicales, puisqu'il me semble avoir lu quelque part qu'il était de formation plutôt musicale, je crois. Qu'il le met beaucoup en avant. Et vous, la musique, vous êtes amené, non pas tant à en faire, mais à en accompagner. Nous parlions de ce spectacle qui va être repris. Les nouvelles métamorphoses. Avec le concert de l'Hôtel Dieu, Franck-Emmanuel Comte est déjà venu une fois, deux fois, trois fois, je ne sais plus, déjà venu plusieurs fois à l'émission.
Oui, c'est une collaboration qui n'est pas nouvelle avec le concert de l'Hôtel Dieu, puisqu'on est à trois spectacles ensemble, et là c'est quelque chose d'assez réjouissant, parce que dans la politique du concert de l'Hôtel Dieu, la politique artistique de Franck-Emmanuel Comte, qui est d'ouvrir la musique baroque à de nouveaux publics et de la confronter à d'autres discipline, il a choisi dans le cadre de ce concert de cantate baroque assez savante finalement, qui tourne autour des métamorphoses d'Ovide. Enfin, il y a Orphée Eurydice, Apollon et Daphné, et je sais plus quel est le troisième, mais voilà, il y avait une volonté aussi de permettre à un public qui est pas forcément mélomane pur et dur d'accéder à cette musique avec un petit travail de vulgarisation dans le sens noble du terme, qui m'a confié en me demandant d'écrire des petits sketchs qui permettraient d'éclairer le public sur la mythologie dont il va être question dans la cantate en question, mais aussi sur le rapport entre cette mythologie et la musique. Et du coup, j'ai créé deux personnages qui sont joués par Franck Pithiot et par moi, qui sont un peu qui sont un peu incongrus, parce que qui départ un peu dans l'esthétique du concert baroque habituel, c'est-à-dire qu'on a un technicien lumière qui est là, qui est en train de finir de régler ses lumières, et puis le vigile, l'agent de sécurité qui est chargé de filtrer les entrées, de surveiller les sacs à main. Et ces deux types-là qui sont plutôt qui ont un bon sens très très terre à terre, finalement, en discutant, vont amener à le spectateur à avoir plein d'éclaircissements sur le mythe en question et sur la cantate qui va l'illustrer. Et voilà, et du coup, j'ai écrit des petits sketchs comme ça, où il y a effectivement, l'agent de sécurité est un dingue de mythologie, on sait pas pourquoi, mais il connaît ça très bien, et le technicien lumière, lui, connaît un peu mieux la musique, et en fait, ils vont s'éclairer l'un l'autre de leur lumière.
Est-ce que Franck Pithiot est encore un peu dans le registre Perceval, un peu un naïf, un peu benêt, ou
oui, alors en fait, on se le partage un petit peu, c'est-à-dire que quand on parle musique, c'est lui le sachant et moi l'ignorant, donc c'est lui qui domine, et puis quand on parle de mythologie, c'est moi le sachant et lui l'ignorant, et donc c'est moi qui prends ma revanche. Voilà, il y a une espèce de jeu de ping-pong comme ça, et vraiment c'est très réjouissant, parce qu'on a on a démarré ce spectacle dans le cadre du festival de la Tour Passagère, avec un public qui était très hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y avait des fans de Kaamelott Le fan de Kaamelott habitué, c'est-à-dire le jeune mec un peu geek et dingue de fiction télé, mais pas forcément féru de musique baroque, plutôt en général abreuvé au métal. Et puis le vrai mélomane baroque qui était là pour écouter de la belle musique. Et ces gens-là se sont réjouis ensemble du spectacle. Donc c'était vraiment très 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 réjouissant.
Je recherche le nom Baroque et Plus. Nous avons reçu le directeur
oui,
artistique de
Jérôme Salor.
Voilà, c'est ça, Jérôme Salor. Déjà venu.
C'est lui qui avait fondé ce festival de la Tour Passagère, qui est un endroit merveilleux. J'espère que
ils ont fait relâche, je crois, cette saison 2017.
Parce que c'est un festival qui a été porté à bout de bras par Jérôme et par une équipe très réduite et bénévole. Et c'est un gros chantier.
J'ai vu un Cyrano là-bas, c'était...
C'est un endroit magnifique.
C'est formidable. Et puis
c'est un petit théâtre shakespearien en bois, démontable, et avec une acoustique fabuleuse et un rapport entre l'acteur et le spectateur qui est absolument incroyable.
Square de Faust, je crois, c'est ça, il me semble.
C'est sur les... c'est les quais de Saône, rive gauche,
entre Perrache et Confluence.
Derrière les voûtes, voilà, c'est ça, à la hauteur du cours Suchet.
Ah, j'y suis même allé pour les deux éditions, j'y ai vu pour la première, c'était pas vous, c'était pas les Métamorphoses, néanmoins c'était bien le concert de l'Hôtel Dieu, je crois que j'étais allé voir, était-ce Anté à Pichnik, ou bien l'autre grande cantatrice du concert de l'Hôtel Dieu.
Heather Newhouse.
Il est possible que ce fût elle, je ne me souviens plus très bien.
En tout cas, c'était bien.
Très bon. Question qui vient à l'esprit, ce registre pour ce spectacle des Métamorphoses, est-ce un peu le registre? Bien entendu, il faut arriver à 14h23, il faut commencer un peu à amener ces sentinelles dont nous allons parler dans une deuxième partie d'émission, mais ce registre, certes, qui est peut-être un peu dans les sentinelles, est-il déjà un peu présent dans les Métamorphoses ou certainement moins, mais disons au moins, quel est ce registre? Comment vous situeriez-vous? Un peu du comique, du tragique, la farce, du burlesque?
En général, quand j'écris de la comédie, j'essaye d'être drôle, c'est la moindre des choses, c'est quand même le prérequis, comme on dit, mais j'aime bien dans mes comédies parler de sujets qui me tiennent à cœur. Par exemple, il y a une comédie que j'ai écrite qui se joue régulièrement qui s'appelle Calamity Job, dans laquelle je ne joue pas, où je parle du monde du travail et de ces distorsions.
Petits tas dans le moule à l'instant, dans la rémission entre 13h et 14h, parlait de normalisation dans les rapports d'entreprise.
Des rapports qui ne sont pas vraiment normalisés, qui sont plutôt conflictuels. Voilà, et en fait, j'essaye de décrire la cascade de pression qui se fait depuis le haut de la pyramide jusqu'au dernier échelon.
Et mais alors, voilà. C'est drôle ou...
Mais c'est très drôle, oui, c'est très drôle. Ah oui, je vous rassure, c'est très drôle.
Bon. Et voilà, mais il y a une gravité quand même.
J'aime bien parler de choses, entre parenthèses, sérieuses, avec de l'humour. Dans mon spectacle qui s'appelle Troupe de l'élection, où je parle du rapport l'homo politicus, qui en a fait vraiment une carrière de la politique, non pas qui est devenu un professionnel de la politique. Qui agit comme un professionnel plus que comme quelqu'un de convaincu. Voilà, je place ce personnage-là en face de quelqu'un qui ne lui ressemble absolument pas et qui est à mille lieues des sphères politiques. Et voilà, j'essaye de créer le clash et la rencontre entre des univers qui ne se rencontrent pas normalement. Voilà. Et c'est un peu le cas de toutes mes comédies à deux, parce que j'aime beaucoup la comédie des contraires avec deux personnages qui se rencontrent et qui doivent coexister à un moment dans une situation particulière avec toutes leurs différences. Donc ça, une de mes marottes en termes de comédie,
très caractéristique. Enfin, disons,
de faire rire les gens tout en leur parlant d'homophobie, de racisme, de malaise au travail, qu'est-ce que j'ai traité aussi comme sujet
les sentinelles.
Alors les sentinelles, on n'est pas dans le registre de la comédie. Là, pour le coup, c'est quelque chose.
Pourtant, ça peut être drôle.
Mais j'ai pas pu m'empêcher. C'est-à-dire que quand j'aime bien faire rire avec des choses sérieuses même quand je me dis que je vais traiter de choses vraiment graves, je peux pas m'empêcher d'y mettre de la comédie parce que il y a quand même une notion qui est fondamentale dans ma vision de l'existence, c'est la notion de dérision. C'est-à-dire que, voilà, n'oublions pas notre côté dérisoire.
Bien sûr, nous l'évoquerons peut-être après une pause, là, il faudrait éventuellement écouter un peu de musique, mais une dernière chose, dans votre registre, je comptais éventuellement vous demander, mais bon, ça peut être une toute petite question, comment est-ce que Franck-Emmanuel Comte a mis la main sur vous, et puis peut-être quand même plus important, il me semble que dans cette idée de gravité, vous êtes, je crois, j'ai entendu dire, vous êtes parrain d'une association.
Tout à fait, oui. Non,
alors, Franck-Emmanuel Comte, c'est comme ça, c'est à Lyon, forcément.
Franck-Emmanuel Comte, en fait, on s'est rencontré dans un spectacle dont il était un des partenaires. C'était un spectacle d'André Fournier qui s'appelait Le Capitaine Le Golif. C'était une espèce d'opéra bouffe autour de la musique maritime, entre guillemets, des chants marins du XVIIe siècle.
Chansons à boire, un peu, je crois.
Oui, aussi, voilà, et c'était une espèce d'épopée comme ça, où je jouais un des personnages et donc Franck-Emmanuel Comte avait la direction musicale et André Fournier la direction théâtrale et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Franck-Emmanuel et puis là-dessus on a enchaîné sur d'autres projets qui sont le médecin imaginaire, voilà, qui est une espèce de voyage dans Molière vis-à-vis de la médecine ou la médecine vis-à-vis de Molière
avec de la musique,
voilà, à travers la musique et quelques extraits de comédie de Molière autour de la médecine, et voilà, c'est une espèce de patchwork comme ça, et puis ensuite on a fait un Shakespeare Fantasy qui était un spectacle
enregistré, je crois, oui.
Oui, qui a été enregistré, qui a donné lieu à un disque, et que voilà, où il y avait un contre-ténor Théophile Alexandre, magnifique, qui est aussi danseur, et moi qui jouais et c'était les sonnets de Shakespeare accompagnés de musique de Purcell, donc c'était pas dégueulasse.
Vous avez une palette très large, hein, parce qu'on ne va même pas parler Gérald, de toute façon on ne l'aurait pas autorisé. Gérald, c'est l'autre questionneur, l'intervieweur de l'émission, il n'aurait pas accepté que nous parlions de football parce qu'il a tout de même carton rouge, hein, je crois, c'est ça. Mais bon, on l'évoquera.
Carton rouge, c'est une comédie qui traite
du football.
J'adore le foot, mais en même temps, quelquefois, je le déteste pour tout ce qui trimballe et pour tout ce qui renferme.
Alors peut-être Gérald aurait-il permis ça.
Et donc, c'est une façon de régler mes comptes avec ce côté détestable du foot.
Arrivons donc à cette, avant de parler plus précisément, plus longuement de ces sentinelles, peut-être quelques instants, puisque c'est un peu votre tâche de parrain, vous devez évoquer cette association, donc on vous en parlait comme vous souhaitez, puis après nous mettons la deuxième titre, on ne sait pas ce que ce sera, on verra bien.
Du bac.
Non, j'ai pas de bac
dans ma playlist, pas pour l'instant, enfin je pourrais en mettre, hein, parce que j'adore, mais non, j'ai pas, dans ce que j'ai apporté, j'ai pas mis de bac.
Quel est le nom de cette association?
Alors cette association s'appelle APEL, A2PEL, ça veut dire historiquement Association des philanthropique des parents d'enfants leucémiques. C'est une association qui a 40 ans, qui a été créée par des parents d'enfants qui étaient atteints par la leucémie, par des cancers de l'enfant, donc il y a 40 ans, et qui continue à œuvrer tous les jours avec des bénévoles pour apporter aux enfants hospitalisés pour des cancers et à leurs familles un soutien en trois grands axes, finalement. Un soutien financier, parce que un enfant malade, c'est en général un des parents qui s'arrête de travailler, et du coup des difficultés financières pour le ménage, enfin qui peuvent survenir. Donc l'appel récolte des fonds et essaye d'aider financièrement les parents, les familles dans cas de coup dur. Avec aussi une aide au logement des parents qui viennent en général quelquefois d'assez loin pour être auprès de leur enfant. Donc l'association a deux appartements dont on offre gratuitement l'occupation des chambres à des parents qui peuvent comme ça rester auprès de leur enfant pendant les protocoles thérapeutiques. Il y a une aide en animation, une approche en animation, c'est-à-dire amener de l'animation dans l'hôpital, faire rentrer la vie dans l'hôpital par des kermesses, des spectacles, des ateliers de cuisine, des ateliers artistiques, par aussi la mise en place de robots interactifs qui permettent à l'enfant d'être en relation via l'informatique et via la vidéo avec son domicile, et puis une aide scientifique, c'est-à-dire en offrant une bourse d'études, une bourse de recherche à des chercheurs qui travaillent sur les thérapeutiques liées au cancer de l'enfant, que ce soit la thérapeutique fondamentale du cancer proprement dit ou les thérapies pour lutter contre la douleur. Voilà. Donc ça s'appelle Appel Rhône-Alpes, www.appel-rhône-alpes.
Nous mettrons un lien sur le blog.
Voilà, et voilà, c'est des bénévoles, ils font ça avec tout leur cœur, avec beaucoup d'énergie, Et voilà, et je suis très fier d'être leur parrain. Mon boulot, c'est d'en parler quand je le peux. Donc voilà, c'est fait. Merci Christophe, j'ai pu parler de l'appel et c'est important pour moi.
Nous sommes prêts pour une pause musicale. Je crois que vous avez beaucoup parlé. On va peut-être boire un verre d'eau.
Peut-être un peu trop.
Non, mais c'est très très bien. Les Sentinelles, plus précisément, rappelez-moi l'adresse, je me suis trompé tout à l'heure.
Du mardi au samedi à 21h30 au Théâtre Comédie Odéon, 6 rue Grolet, dans le 2e arrondissement.
De toute façon, on peut pas le manquer.
Métro Cordelier.
Voilà. Métro Cordelier. Et puis maintenant, auditeurs, surprise, on va donc écouter une deuxième piste extraite de la playlist de notre invité Jacques Chambon. À l'affiche donc des Sentinelles, parce qu'on a bien dit que c'était les Sentinelles, vous écrivez également, vous interprétez Badiard et donc pour en savoir plus, restez donc à l'écoute, nous voyons ce que c'est, nous entendons ce titre et puis après nous reprenons la conversation jusqu'à 15h comme d'habitude sur Radio Canut.
Alors ouais. C'était Schubert, hein. C'est la mélodie hongroise de Schubert jouée par Alfred Brendel. Pourquoi Schubert ? Parce que j'adore Schubert, parce que j'adore l'économie de moyens de sa musique. En fait, avec très peu de choses, il arrive à provoquer une émotion incroyable. Et puis, du coup, je l'utilise dans mon dernier seul en scène qui s'appelle La vie est une fête. Voilà, c'est la seule musique de mon seul en scène.
Jacques Chambon, vous êtes à l'affiche d'un 4 sur scène.
4 sur scène, là, oui, les Sentinelles, oui.
Les Sentinelles, avec Badiard et puis peut-être Amos, dont on pourrait dire qu'ils sont un peu opposés, c'est ça?
La pièce se passe dans une espèce de désert un peu improbable, pas forcément identifiable, à une frontière, et voilà, il y a deux guérites, deux barrières et deux gardes-frontières qui se font face en chien de faïence, qui sont finalement des frères ennemis parce qu'ils se ressemblent beaucoup.
Le drapeau, moi j'étais sensible au drapeau, c'est le même, mais les couleurs
sont
inversées.
Mais inversées, voilà, leurs pays se ressemblent beaucoup, mais se mettent sur la gueule depuis toujours, comme ça arrive dans certaines zones du monde où il y a des conflits comme ça qui durent, qui se régénèrent régulièrement, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, parce que finalement on se rend compte que les gens de part et d'autre de la frontière sont assez semblables. Et voilà, et ces deux gardes frontières sont là dans ce désert. L'un est là depuis longtemps, il a choisi une forme d'exil un peu volontaire dans ce coin de
l'explique frontière. Par la suite.
Et puis l'autre arrive, vient d'être désigné par son état-major pour venir de nouveau occuper cette frontière. Il arrive avec plein d'allants, plein d'ambitions et plein de discipline.
C'est vous.
C'est la rencontre, c'est moi.
C'est Badiard.
C'est Badiard, voilà. C'est la rencontre d'abord entre ces deux personnages et cette opposition qui est finalement le résultat de dizaines de siècles de propagande et de discours politico-militaires. Donc ils sont le produit de leur pays respectif. Et puis il y a deux autres personnages qui vont arriver, l'un qui est un personnage un peu prophétique, une espèce de mère absolue, mère M-E-R-E, la maman absolue, une femme qui est chargée de Kaaba et qui sait que quand la déflagration guerrière se produira, parce qu'elle manquera pas de se produire, des enfants seront livrés à eux-mêmes et qu'il faudra que quelqu'un s'agenouille devant eux pour s'occuper d'eux et pour les consoler. Et elle a choisi cette mission, elle a choisi ce sacerdoce, cette espèce d'obligation morale. Et voilà, et puis en plus elle a une vision de ce qui va se passer parce qu'elle l'a vécu depuis toute éternité. Et puis le quatrième personnage, c'est une espèce d'errant magnifique, un personnage le réprouvé universel qui est rejeté de partout. On peut lui donner l'étiquette de Rome, de migrant, de peu importe où qu'il aille, de toute façon il n'est pas le bienvenu, donc il court en permanence. Et enfin il trouve par une espèce de maladresse administrative de nos deux gardes-barrières, nos deux gardes-frontières, il va se retrouver entre les deux barrières dans le No Man's Land, et finalement il va s'y sentir bien parce que apatride dans un No Man's Land, c'est cohérent, comme le dit Amos.
Peut-être viendrait-il éventuellement de Calédonie, puisque pour les spectateurs, les téléspectateurs de Kaamelott, il s'agit d'un autre personnage. On a tout à l'heure parlé de Perceval, on a donc bien entendu évoqué le roi Arthur lui-même, Alexandre Astier, mais là c'est donc le roi de Calédonie.
C'est Stéphane Margot.
Calogrenant
dans Kaamelott. Stéphane, qui est qui avant d'être mon collègue dans Kaamelott, est un ami et un comédien que j'aime beaucoup.
Cascadeur, j'ai trouvé sur
voilà,
Internet.
Ouais. Voilà, exactement. Son premier métier, c'est la cascade. Et voilà, entre deux gifles ou deux torches humaines ou deux chutes de toit, ben il vient jouer ce personnage avec nous, et c'est ce quatuor là qui est sur scène et qui finalement va se mettre à cohabiter, à devoir cohabiter par obligation d'abord, puis finalement peut-être se rapprocher les barrières et les frontières entre les personnages vont finalement se lever petit à petit.
Voilà, techniquement la barrière se lève souvent.
Oui, la barrière s'ouvre et se ferme, c'est symboliquement c'est important. Et puis voilà, puis par contre ces personnages, ils ont en commun quelque chose qui est une langue qu'ils se partagent et comme ils la partagent, elle s'est enrichie, donc c'est une langue que j'ai voulu un petit peu riche, un petit peu savante, pas savante mais un petit peu travaillée, un petit peu gourmande, et c'est à la fois un plaisir d'acteur que je nous ai donné en écrivant de cette façon, mais c'était aussi important pour moi de faire en sorte que cette langue elle soit le signe du fait qu'elle a été enrichie par les usages de tous ces personnages autour d'elle. Et voilà, c'est une langue qui s'est enrichie par l'apport des uns et des autres, et non pas une langue qui s'appauvrit par le plus petit dénominateur commun.
Je vous remercie d'amener les questions, Jacques. Vous m'imposez cette question.
Je suis désolé.
Bien entendu, mais c'est très bien. Je comptais vous lancer là-dessus, sur l'écriture, sur le texte. Là, par exemple, je vois la fin de la scène 1.
Oui.
Les deux personnages donc, qui parlent justement de cette opposition. Vous parlez de leur pays. Puis là, à l'instant, vous parlez d'un point commun. Ben, effectivement, cette opposition ne tient pas vraiment. Amos dit c'est pareil chez nous. Et comme le pays est en guerre depuis toujours, c'est un pays qui ne ressemble à rien. Et la Badière, donc vous l'interrompez. Ça me fait mal au ventre de le dire, mais je suis d'accord avec toi. C'est un pays de merde que le tien. Et Amos, c'est un pays de merde qui ressemble au tien comme un frère. Alors là, Badière explose, tu veux rire, et Amos dit, bah non, les mêmes campagnes stériles, les mêmes banlieues lépreuses, les mêmes villes grises, et partout les mêmes enfants maigres, les mêmes vieillards hébétés, les mêmes femmes aux lèvres serrées par la colère et le chagrin. Et vous, Badière, vous terminez de manière...
Disons, chez nous,
c'est assez terrible.
Chez nous, les enfants sont vifs, les vieillards sont sages, et les femmes ont de la dignité et les épaules roses.
C'est d'une mauvaise foi absolument stupéfiante.
Bien sûr.
Mais c'est terrible parce que il y a un effet comique qui est indéniable, mais la salle, moi, quand j'ai pu assister au spectacle, la salle riait, mais parfois c'est un rire
qui est un peu difficile parce que c'est un rire qui c'est un rire de libération, je pense, un petit peu, et puis aussi de peut-être d'amusement devant le dérisoire des personnages parce que ces personnages sont malgré tout dérisoires avec leurs grands airs, leurs grands principes et leurs grandes proclamations. L'un comme l'autre, ils sont dans la proclamation de leur état et dans la justification de leur présence. Or, ils sont tout aussi dérisoires. Voilà. Et c'est vrai que c'est un rire un peu libérateur. Mais en fait, quand j'avais constitué Nous crions grâce, le spectacle sur la guerre de 14-18, il y a très longtemps, j'avais beaucoup épluché la presse de l'époque. Et en fait, quand on lisait la presse française, les Français parlaient des Allemands. La presse française parlait d'Allemands comme de sauvages qui étaient infréquentables. Et inversement. Et finalement, quand Badière dit à Amos que chez lui les enfants sont vifs, les vieillards sages et les femmes ont de la dignité, les épaules roses. C'est voilà, on est toujours dans le même refrain finalement.
Deux passages, je vous l'ai dit après le spectacle, quand j'ai pu vous voir, deux passages sont assez, je trouve vraiment vraiment sidérants. C'est les deux monologues, en quelque sorte, celui tout d'abord de vous-même, de Badière, on peut pas trop le dire à l'antenne parce que ça peut être un peu gênant pour expliquer. Enfin, du moins, on peut pas non plus. Je le crains trop en dire de cette
oui.
pièce, mais c'est quand même il y a une grande gravité. Et l'autre passage qui heureusement est peut-être un peu
plus léger.
Voilà, plus léger, plus drôle, c'est quand Coban donc masque la lecture de son discours. Revenons donc un peu à cette écriture. Par exemple, pour écrire ces deux passages, c'est très bien que vous l'ayez évoqué à l'instant. Donc, Nous crions grâce. Vous aviez un peu feuilleté la
oui.
presse.
Oui.
Et la presse du début du siècle.
J'avais lu beaucoup de lettres de soldats.
Et, ouais. et pour ce spectacle, alors, pour ce qui est de l'écriture, carrément le texte, et puis même l'occasion de l'écriture, peut-être pourriez-vous le rappeler.
Alors,
ce voyage,
en fait, il y a eu deux éléments déterminants. C'est d'abord le fait de vouloir retravailler avec François Bourde, qui joue Amos, qui est un comédien avec qui j'avais beaucoup travaillé à l'époque de la compagnie Sortie de route, dans laquelle on était tous les deux. Et voilà, et c'était quelqu'un qui s'était éloigné du plateau depuis de nombreuses années et que j'avais envie de ramener sur un plateau de théâtre. Donc,
belle présence. C'est lui qui ouvre la scène,
oui.
qui ouvre la pièce.
C'est vraiment un acte d'amitié de voilà que j'ai voulu porter. Je lui ai dit, voilà, si j'écris quelque chose pour nous, est-ce que tu serais d'accord pour le jouer? Il m'a dit d'accord. Donc c'est ce qui a déclenché l'envie d'écrire. Et puis ensuite, ce qui a déclenché le propos, c'est un voyage que j'ai fait à Sarajevo quelques années après la fin de la guerre en Yougoslavie, et qui m'a beaucoup marqué. La guerre en Yougoslavie m'avait beaucoup marqué parce que je m'y étais intéressé d'assez près. J'avais vraiment beaucoup lu là-dessus. J'avais regardé un documentaire magnifique qui s'appelle Yougoslavie, suicide d'une nation européenne, de Brian Lapping pour la BBC, qui est absolument édifiant sur comment se mettent en branle des mécanismes tragiques dans l'histoire à partir de rien. Et voilà, ce qui m'avait le plus frappé dans cette guerre, c'est que c'est la Yougoslavie à l'époque était un des pays du monde qui avait le plus fort taux de diplômés d'études supérieures. Donc c'était un pays éduqué, cultivé, avec des bibliothèques, des universités, avec un système éducatif très 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 performant. Et malgré tout ce vernis civilisationnel, en quelques mois, tout est parti en sucette. On est parti dans de la sauvagerie, dans de l'extermination, dans du nettoyage ethnique. Et c'est déjà ce qui me préoccupait dans Nous crions grâce, c'est déjà de me dire que sous le vernis de la civilisation et de l'éducation et de la culture, finalement l'animal est pas loin, est juste dessous, et il suffit de pas grand chose pour que le vernis se craquelle et que la bête ressurgisse, quelle qu'elle soit. Et c'est ce que dit d'ailleurs le personnage prophétique de Dina dans le spectacle. Elle sait que ça va recommencer de toute façon.
Vous avez été marqué, l'image n'est peut-être pas très adroite, mais marqué un peu comme les murs, vous me disiez ça tout à l'heure, oui. Les murs de Sarajevo qui comportaient les impacts
qui étaient encore marqués des impacts de tirs, d'obus, etc. Et puis c'est dans les mentalités aussi que les choses étaient incrustées aussi. Il y avait quelque chose de très très pesant dans le fonctionnement entre les communautés. Par exemple, je suis allé tourner une petite séquence de ce court-métrage pour lequel j'étais en Bosnie, dans une petite ville dont la majorité est croate, mais en Bosnie, donc une ville croate, dans laquelle les enfants musulmans ne pouvaient pas aller à l'école. Donc l'école, la classe leur était dispensée dans des boutiques ou dans des cafés de la ville, parce que l'école était interdite aux musulmans. Et ça, c'était après la guerre. La guerre était finie. Mais il y avait quand même des fonctionnements comme ça, communautaires très, 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 très serrés, qui perdure encore, je crois. Je suis allé l'été dernier au Kosovo, où j'ai vu il y a des enclaves serbes au Kosovo qui sont comme des Bantoustans, en quelque sorte, qui sont complètement isolés du reste de la... Il y a une liaison de bus entre ces petites zones et la Serbie, mais il y a très peu d'échanges entre... Alors que cette ville que j'ai visitée, cette ville serbe, est à 10 km de Pristina, la capitale. Mais ça s'améliore un petit peu, mais il y a encore 2-3 ans, aucun taxi de Pristina n'allait là, et aucun taxi de cette ville n'allait jusqu'à Pristina. C'était comme s'il y avait une frontière invisible entre les deux.
Et alors, bien entendu, hélas, la question se pose, est-ce que les sentinelles pièces écrites il y a déjà quelques années, je crois. Est-ce que les sentinelles ont perdu à présent de leur actualité?
Malheureusement, non. Malheureusement, je dirais que j'aimerais bien que ce soit une pièce historique, mais non, c'est une pièce d'actualité, puisque on y parle d'errance, de
migration. Le personnage de Coban, oui.
On y parle de migration, on y parle de murs qui s'érigent. On sait qu'il y a un projet de mur entre le Mexique et les États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique. Il y a le mur en Palestine, il y a le mur de Ceuta.
Ces couleurs de drapeau, là, ce blanc-vert qui, je ne sais plus dans quel ordre c'est pour
le. C'est vert et blanc, blanc et vert, voilà, ils ont le même drapeau, mais inversé.
C'est le drapeau palestinien, non, un peu
enfin, non, ces non, couleurs-là. Alors, il se trouve que le vert est un. Et souvent, dans les pays musulmans, il y a toujours du vert sur les drapeaux parce que c'est la couleur de l'islam. Mais c'est pas du tout délibéré de ma part. C'est juste qu'il se trouve que par rapport à l'ambiance colorée générale, la costumière qui a été en charge des drapeaux a choisi le vert parce qu'il pouvait, ça rattrapait quelques teintes du beige des uniformes ou du kaki des guérites.
Je lançais comme ça un regard à la pendule. Il nous reste encore une bonne grosse dizaine de minutes. De toute façon, il n'y a pas d'émission à 15h. Nous ne sommes pas mercredi. Il n'y aura pas de blues des canuts qui va nous succéder. Donc, on pourra éventuellement déborder. Nous verrons. Peut-être pourrions-nous faire une petite pause et puis entendre la troisième piste comme ça dans l'ordre.
On essaye la troisième. Allez,
va durer 4 minutes 28. Ça ne vous dit rien le temps que ça pourrait être hein.
Non, alors il y en a une
autre à 3:19 qui va durer ensuite. Qu'est-ce que il y a il y en a même deux à 3 minutes 19 pile, c'est assez curieux.
C'est peut-être la même, non. Ouais.
Une autre à 4 minutes 24. Et je crois que vous avez mis 9 pistes en tout.
Ouais. Bah allez au pif. Allez.
Bon alors la septième peut-être.
Allez, la septième.
La septième, vous l'expliquerez,
c'est le premier. J'essaierai d'être cohérent après, oui.
Auditeur, restez à l'écoute. Radio Canu, spectaculaire. Encore 10 minutes à passer ensemble avec Jacques Chambon à l'affiche des Sentinelles sur la rue Grolet, Comédie Odéon, 21h30 tous les soirs de semaine, du mardi au samedi. Relâche les dimanches et lundis. Nous ne sommes qu'en milieu de deuxième semaine. Il reste encore toute une semaine et demie jusqu'au samedi 4 novembre. Do not know.
day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
To the river.
Alors, petite explication, donc c'est Nick Cave et Kylie Minogue, un duo que je... D'abord Nick Cave, moi je suis un grand fan de Nick Cave, je trouve que c'est un des plus grands artistes musiciens de cette époque, et j'aime, moi je parlais tout à l'heure de Comédie des Contraires, et j'aime beaucoup ce morceau aussi parce qu'il réunit Nick Cave et Kylie Minogue, deux artistes qui a priori peuvent sembler aux antipodes l'un de l'autre, d'autant plus qu'ils viennent tous les deux des antipodes, c'est-à-dire de l'Australie. Mais voilà, et quand deux talents se réunissent, même des talents lointains l'un de l'autre, finalement ça peut faire quelque chose de très 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 beau. Voilà, et j'adore ce morceau.
Physiquement, je crois presque 2 mètres pour
Nick Cave,
1m50 pour Kylie Minogue. Oui. La voix très grave de... Pas forcément très grave, mais bon, il y a un timbre, il y a quelque chose d'assez...
Oui, ça bourdonne, oui, oui.
Et puis une voix
qui... un cristallin de Kylie Minogue.
Voilà, et pas trop pop cette fois-ci, c'est
non,
bien parce que moi je connaissais
voilà.
Ces autres tubes qui étaient...
Comme quoi, voilà, c'est une grande interprète quand même, elle le prouve là, ouais.
Et alors donc, est-ce que cette attirance que vous avez pour les contraires, donc je pense qu'on l'aura compris, c'est un peu dans les... c'est même beaucoup dans les Sentinelles, dans d'autres spectacles passés, dans des spectacles à venir aussi peut-être, Jacques Chambon, oui, non
oui, alors...
De quoi parlons-nous, encore 10 minutes.
Alors, on peut parler du futur, alors effectivement, le futur... D'abord, c'est la continuation de Seul en scène, la vie est une fête, que je vais reprendre au Complexe du Rire début mars, première quinzaine de mars, donc ça, je suis très content. Et puis, d'ici là, deux autres projets importants.
Reprise et métamorphose, vous aviez dit.
Oui, la reprise et métamorphose, effectivement. Janvier. Et puis un projet à la Comédie Odéon aussi, mais alors c'est un projet
une nouveauté
particulier, c'est une pièce de Paul Aymon qui s'appelle Malaga. Paul Aymon, c'est un dramaturge belge, un auteur superbe qui est vraiment un bel auteur de théâtre, et je vais avoir la chance et le privilège et de
En création donc.
C'est une recréation. En fait, c'est Valentin Traversy, la compagnie Traverse, qui avait monté ce spectacle il y a quelques années. Et Valentin Traversy nous a quittés malheureusement le mois dernier. Et Karine Martin-Prével, sa compagne et comédienne, dans l'envie de remonter ce texte, m'a demandé de reprendre ce rôle. Et donc c'est un beau défi assez lourd à porter, parce que succéder à Valentin Traversy, c'est pas facile. C'est un acteur que j'aimais beaucoup et que je respectais énormément, voilà, mais ça fait partie des projets à venir. Et puis
faut-il saluer Julien Poncet, qui je ne le connaissais pas encore il y a quoi 2 mois, qui manifestement fait des paris assez impressionnants, assez beaux. Olivier Sauton pour sa comédie Fabrice Lucchini et moi, qui était peut-être pas très facile.
Oui.
Olivier Sauton l'évoquait sur scène. Vous l'avez vous-même dit sur scène aussi, le pari de programmer Les Sentinelles à Comédie Odéon, qui n'est pas peut-être le lieu qui pourrait forcément vraiment s'y prêter, même s'il y a des aspects quand même comiques assez importants. Et puis donc là, vous dites encore ce pari de recréation pour cette pièce de Paul Aymon.
C'est un auteur belge.
Donc,
voilà.
Bravo Julien Poncet, c'est très bien.
Oui,
Comédie Odéon,
c'est
du boulot qui est abattu.
Voilà, oui. L'idée, c'est de son envie, c'est d'ouvrir le théâtre à des formes un peu plus ambitieuses, sans être péjoratif pour la comédie, hein, puisque moi j'adore la comédie, mais des formes un peu plus complexes peut-être, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est ça fait un plateau dans Lyon intramuros où on peut envisager de créer des spectacles avec une durée, avec un plateau qui s'y prête, voilà. Donc c'est quand même c'est une très belle nouvelle pour toutes les équipes de création lyonnaise.
Et le public, je crois, suit aussi, puisque moi, de ce que j'ai pu voir pour Olivier Sauton ou bien pour Les Sentinelles, il y avait quand même du monde.
Il y a quand même du monde, c'est un travail long, il faut arriver à fidéliser les gens, à leur donner l'habitude de sortir en deuxième partie de soirée,
oui,
pour aller voir des spectacles,
c'est pas
toujours facile.
Et je crois que le prochain spectacle donné à la Comédie Odéon, je ne sais pas si c'est éventuellement un grand succès, il me semble avoir noté le mardi 31 octobre, pour délocalisation qui va se faire à côté sur la place Guichard à la Bourse du Travail, pour une pièce avec Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, je crois.
Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais.
Heureux élu, je crois, il me semble.
Heureux élu, peut-être
quelque
bien,
chose
oui,
comme
c'est ça.
Et ouais. Ce ne sera pas la Comédie Odéon. De toute façon, la Comédie Odéon sera prise. Hein. Vous êtes sur
Exactement,
scène à 21h30.
Voilà.
Je crois que c'est à 20h. Auditeur, je trouverai le renseignement. Je le mettrai sur le blog en lien. Mais Bourse du Travail, c'est quand même une autre salle.
Ah, c'est une autre
Comédie
dimension.
Odéon, donc c'est très bien si le monde suit. Si
mais c'est très bien.
Viennent.
En fait, voilà, le pari de la Comédie Odéon, c'est de se dire, voilà, on a des spectacles locomotives en termes de fréquentation qui marchent, des comédies qui ont très bien marché à Paris, qui sont reprises ici, notamment Une Semaine Pas Plus, qui se joue en ce moment. Voilà, et c'est des locomotives qui permettent de s'offrir le luxe, finalement, c'est un luxe, de prendre des risques sur des spectacles plus fragiles, plus complexes, plus difficile à vendre, entre guillemets. Donc c'est un beau pari, oui.
Je tenais à placer cette petite anecdote. Pour ce qui est du spectacle de Fabrice Lucchini et moi, le plateau était quand même assez vide.
Oui.
C'est un spectacle qui devait pas être très onéreux pour ce qui est des décors et des mises en scène. Quoique s'il y avait un banc.
Un banc, oui.
Et d'ailleurs, ce banc
c'est le mien. Oui, enfin, c'est le nôtre.
Ce banc.
Oui, c'est un banc qu'on utilise dans un autre spectacle que j'ai écrit qui s'appelle Smartphone, qui parle, alors là, encore une comédie à deux, mais qui parle des gens qui vivent dans la rue et du contraste avec l'hyper connectivité des jeunes gens très connectés, voilà. Et donc dans mon spectacle il y avait un banc, et Olivier Sauton venant de Paris en TGV,
ouais,
il n'avait pas prévu d'amener un banc, et donc Julien Poncet de la Comédie Odéon cherchait un banc et j'en avais un, donc voilà.
Autre projet, 14h59, allez, on déborde éventuellement encore un peu. Vous disiez deux projets, je crois. Donc,
un autre projet.
Moi, je vous ai lancé sur
un autre projet qui m'a été proposé par Antonella Amirante, qui est comédienne et metteur en scène de la compagnie Anteprima. C'est un projet de monologue politique. C'est l'histoire d'un homme politique. C'est un homme politique qui vient parler à son peuple, à ses, à ses administrés, à ses... Et c'est un homme politique corrompu.
Alors, avec de l'humour, un second degré peut-être
Un second degré, parce qu'en fait, c'est une espèce de défense et de charge de cet homme politique vis-à-vis de ses électeurs, de son peuple. En fait, en gros, il leur dit, voilà, je suis corrompu, c'est vrai. Je suis une crapule, c'est vrai, mais vous aimez ça. Et vous aimez tellement ça que vous avez voté pour moi en sachant très bien que j'étais une crapule, que j'étais corrompu. C'est un texte qui renvoie finalement à la responsabilité du peuple et de l'électeur dans les choix qu'il fait. Et dans l'espèce d'acceptation et de finalement de consentement, parler de, je sais plus qui parlait de fabrication du consentement, mais là on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'homme politique dit oui, je suis une crapule, mais vous êtes d'accord pour le fait que je sois une crapule et ça vous plaît que je sois une crapule parce que finalement vous aimez les crapules et vous vous dites qu'une crapule sera toujours plus maligne et se démerdera toujours mieux qu'un honnête homme. Et voilà,
Y a-t-il de la dérision là? Non,
il y a de la dérision, bien sûr. C'est assez cynique. Et voilà, mais moi je trouve ça intéressant de renvoyer aussi la responsabilité de la médiocrité politique ambiante, de renvoyer cette responsabilité aussi aux électeurs. Balkany, il a été élu et réélu X fois par les habitants de Levallois-Perret. Il le savait qu'il était corrompu jusqu'à l'os. Tout le monde le savait, mais ça n'a pas empêché les habitants de Levallois de voter pour lui comme un seul homme à chaque fois, avec des scores de République bananière. Et voilà, donc interrogeons-nous, nous, électeurs, aussi sur notre responsabilité vis-à-vis de la piètre représentation qui nous est offerte par le monde politique. Encore qu'il y a des hommes politiques intègres qui sont très respectables. Oui. Non, mais il y en a, mais qui sont très respectables.
Quand donc, ainsi, quand et où ce miroir sera-t-il tendu au
Alors, ce miroir sera tendu aux spectateurs. Il faut que je me souvienne plus.
On trouvera les éléments.
Février,
premier semestre, c'est ça?
Début février, oui, ce sera début février, je pense, à l'Elysée, voilà, au théâtre de l'Elysée.
Pas encore rue Basse-Combalot.
Rue Basse-Combalot, dans le 7e, à Guillotière, exactement.
C'est terrible, hein, avec cette cinquième saison là, de Spectaculaire, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de salles lyonnaises que nous ne couvrons pas et on va s'y mettre. Comédie Odéon, ça c'est bien, c'est fait.
Ouais.
Complexe du rire, je vais essayer de les passer à la question.
Ouais.
Et puis l'Elysée aussi. L'Elysée, c'est...
Ouais, c'est une belle salle,
ça me dit
bien. C'est un beau lieu.
Ouais.
Ouais.
Et puis un peu toujours ce que vous disiez tout à l'heure, quoi, intramuros. Quoi, voilà. Parce que sinon, les complexes du rire, tout ça, Gerson, c'est plus Pente ou alors cinquième, c'est ça.
Ouais, c'est Vieux-Lyon ou Pente de la Croix-Rousse pour les cafés théâtre. On a la chance à Lyon d'avoir une offre très très large en café-théâtre, et chose que je n'ai trouvée nulle part ailleurs en France.
Nous ne moquerons pas d'une autre commune dans l'Ain, très très proche.
Nous
ne broquerons rien.
À Meximieux et même à Perona, il y a une salle
Carioca
de café-théâtre.
Qu'est-ce qu'on fait? On écoute une autre piste encore, et puis j'imagine avec des émissions après.
Allez, on tente le coup, oui.
Alors, qu'est-ce que peut... La neuvième.
La dernière.
Qu'est-ce que ça va être?
Je pense que c'est Philippe Prohm. J'espère que c'est Philippe Prohm.
Nous allons voir ça.
Il est là.
Alors là, c'était, je suis content que ce soit Philippe Brom qui soit sorti de la playlist, parce que c'est un Lyonnais aussi, c'est un copain, c'est un auteur-compositeur de grand talent, et voilà, et je suis très heureux. Quand j'avais écouté cet album, je l'ai écouté dans un TGV la première fois, et j'ai trouvé que tout l'album était magnifique, et voilà, je vous encourage à écouter Philippe Brom. Voilà.
Merci Jacques Chambon. Générique de fin d'émission. De toute façon, je crois qu'à 15h06, on s'est à peu près
On a un peu débordé, non ?
Bon, ce n'est pas très grave.
Pas grave. Bon.
Jacques Chambon, vous n'êtes pas seulement, je tiens à le dire aux auditeurs, vous n'êtes pas seulement Merlin l'enchanteur, Merlin un peu le gaffeur de Kaamelott. Vous n'êtes pas non plus un druide dans un film qui va sortir d'ici quoi ? D'ici 13 mois, 14 mois. Astérix et le secret de la potion magique. Non, vous êtes aussi sur scène actuellement pour les Sentinelles jusqu'au samedi 4 novembre à 21h30. Et puis, alors, je crois que vous l'aurez beaucoup dit dans cette émission, vous êtes sur de nombreuses scènes lyonnaises. Vous êtes également donc auteur de différents textes qu'on peut peut-être aussi voir si vous n'êtes pas dedans, enfin du moins forcément.
Oui.
Enfin bref, on aura assez bien brossé votre portrait. Néanmoins, si vous souhaitez revenir une fois prochaine, il faut surtout ne pas se l'interdire. Ça pourrait être une bonne chose. Je vous remercie.
Ben merci à vous, Christophe. Et ce sera avec grand plaisir que je reviendrai vous rendre visite.
Moi, je suis content que l'émission exceptionnelle avec une date en décalé et puisse se faire avec vous-même. Merci. Bonne suite de représentation. Et puis les projets, je crois qu'on les a tous notés. Donc
je crois.
C'est très bien.
On a fait le tour.
Bonne fin de journée à vous. Auditeurs, restez à l'écoute de tous les programmes de Radio Canu. Il y a encore beaucoup de choses à venir, et notamment à 19h, le Canu Info, comme tous les jeudis, avec la superbe et fine équipe de Laurent et Delphine. Salut tout le monde, bon après-midi, ciao.